de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos telles que l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz sur le site web www.voanews.id. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La Palestine est souveraine sur les ressources naturelles des zones occupées, a déclaré l'ONU. Le président français Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser de bombarder des civils à Gaza. L'Indonésie condamne les attaques israéliennes contre les installations humanitaires à Gaza. Chaque année, nous présente à présent le journal en complet. La Commission sur les questions économiques et financières, qui est la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations unies, a approuvé une résolution affirmant la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. La résolution affirme la souveraineté du peuple palestinien sur les ressources naturelles des territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, ainsi que sur la population arabe de la région syrienne du Golan occupée par Israël. La résolution appelle également Israël en tant que puissance occupante mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles dans les territoires palestiniens occupés ainsi que dans le Golan. La résolution affirme que la construction par Israël du mur d'apartheid et des colonies en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, constitue une violation du droit international et privé le peuple palestinien des ressources naturelles. Le président français Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser les bombardements tuant des civils à Gaza. Dans un entretien à la BBC rapporté par AFP vendredi, Macron a souligné que les attaques contre les civils ne peuvent pas être justifiées. Selon Macron, Israël a le droit de se protéger après avoir été attaqué par le groupe militaire palestinien Hamas le 7 octobre. Mais les attaques aveugles doivent être cessées. Lors de l'ouverture d'une conférence humanitaire sur Gaza à Paris jeudi dernier, Macron a également déclaré qu'une pause humanitaire devait être mise en œuvre immédiatement à Gaza et que les pays devaient rechercher un cessez-le-feu. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Lalu Muhammad Iqbal à Jakarta, a déclaré vendredi que l'Indonésie condamnait les attaques barbares contre les citoyens et les biens civils, notamment les installations humanitaires à Gaza. Cette déclaration a été transmise par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, via les réseaux sociaux, en réponse au bombardement israélien autour d'un certain nombre d'hôpitaux à Gaza, y compris l'hôpital indonésien. Iqbal a également mentionné que le ministère des Affaires étrangères avait communiqué avec l'agence humanitaire bénévole indonésienne Mercy à Gaza et avait reçu des informations selon lesquelles trois volontaires indonésiens de l'hôpital indonésien avaient été contactés et étaient en bon état. Selon Iqbal, la cible des roquettes israéliennes était la zone de Talizatar, qui est située tout près de l'hôpital indonésien. L'hôpital indonésien a subi un certain nombre de dommages physiques. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président indonésien Joko Widodo et son entourage sont arrivés à l'aéroport international King Khalid de Riyad en Arabie Saoudite samedi, après avoir voyagé pendant environ 11 heures. Le président Joko Widodo a été accueilli par le député du gouverneur de Riyad, Amir Muhammad bin Abdul Rahman, l'ambassadeur d'Indonésie auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdul Aziz Ahmad, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Faisal bin Abdullah Al-Amoudi, et l'attaché de défense de l'ambassade d'Indonésie à Riyad, le général de brigade TNI, Putut Wicaksono. À Riyad, le président Joko Widodo devrait assister à la conférence extraordinaire du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Le sommet s'est tenu en réponse à la situation de crise à Gaza en Palestine, due à l'agression brutale d'Israël. Dans sa déclaration avant de partir pour Riyad à Sidoarjo Java Est vendredi soir, le président Joko Widodo a déclaré que le sommet extraordinaire de l'OKI était très important en tant que l'effort supplémentaire pour mettre fin aux attaques d'Israël contre le peuple palestinien. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Uno, a apprécié le lancement du premier album de chansons de W.R. Supratman, initié par la fondation Wage Rudolf Supratman. Alors qu'il assistait au concert de lancement du premier album de chansons écrites par W.R. Supratman à Jakarta, vendredi, Sandiaga Uno a déclaré que le premier album, qui contient la version originale de la chanson Indonesia Raya, trois stanza et 14 d'autres chansons, c'est très patriotique et beau. Il espère que le premier album de chansons de W.R. Supratman pourra inspirer la jeune génération à avoir un esprit héroïque. J'espère vraiment que la jeune génération sera inspirée par l'esprit héroïque de W.R. Supratman. J'espère que nous trouverons l'inspiration. Le président de la fondation de W.R. Supratman, M. Budi Hari, a déclaré que le lancement du premier album devrait réintroduire les chansons de W.R. Supratman à la jeune génération afin qu'ils puissent profiter des chansons de W.R. Supratman. Budi Hari a déclaré que les chansons avaient été réarrangées à l'exception de la chanson Indonesia Raya et que toutes ces chansons pouvaient être écoutées gratuitement sur la plateforme Spotify. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani, a déclaré que la Pologne était un partenaire très important pour l'Indonésie. Elle a également salué la Pologne comme un pays avec une croissance économique extraordinaire et un faible taux de chômage, seulement 2,9%. Selon Sri Mulyani, la Pologne joue un rôle important dans le paysage économique de l'Union européenne. Sri Mulyani, lors de la fête nationale polonaise à Jakarta vendredi, a déclaré que le commerce bilatéral entre l'Indonésie et la Pologne en 2022 a augmenté de 60,7% par rapport à 2021. Les investissements polonais en Indonésie ont augmenté de 324 projets depuis 2019. L'investissement se concentrait sur des secteurs des transports, notamment le chemin de fer et l'industrie maritime, et sur d'autres secteurs tels que l'exploitation minière, l'industrie de la défense, l'éducation et le tourisme. L'Indonésie et la Pologne explorent toujours de nouvelles opportunités de collaboration, comme dans le domaine de la transition énergétique, qui est très important pour surmonter les problèmes climatiques. Sri Mulyani estime que les relations entre l'Indonésie et la Pologne continueront à se développer à l'avenir. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à notre antenne, la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on voit la rubrique des nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de la ville de Tangerang, la province de Banten. Le département de la culture et du tourisme de la ville de Tangerang, Banten, organise à nouveau le Festival culturel 2023, les 10 et 11 novembre 2023, en présentant un défilé d'action de 1000 guerrières. Le chef du département de la culture et du tourisme de la ville de Tangerang, Ucu Rizal Ridalo, a déclaré jeudi dans un communiqué reçu à Tangerang que le défilé d'action de 1000 guerriers aurait lieu dans le cadre d'un carnaval culturel lors de l'ouverture du parc électrique. Ce festival culturel 2023 était un effort pour préserver diverses cultures. Il y a également diverses activités et concours comme le carnaval culturel, le concours de tumpengan et le concours national de kasida. Outre le carnaval culturel, divers stands de micro, petites et moyennes entreprises de la ville de Tangerang et des petites et moyennes entreprises culturelles ont également animé l'événement. Il y a aussi un spectacle de musique traditionnelle angklung dans un pakas moderne avec DJ Mansur le 11 novembre 2023 ainsi que le groupe Leto le 10 novembre 2023. La nouvelle suivante de la ville de Banda Aceh, la province d'Aceh. Le philologue d'Aceh, M. Tarmizi Abdul Hamid, a exposé un manuscrit racontant l'existence des épices d'Aceh depuis le 16e siècle lors de la 8e semaine culturelle d'Aceh du 4 au 12 novembre 2023 à la Maison des manuscrits d'Aceh. Il a déclaré que de nombreuses histoires et voyages des épices sont enregistrées dans l'ancien manuscrit Aceh et que les épices ne se limitent pas aux produits à base de plantes et aux épices de cuisine. Il est également devenu une icône et une philosophie de vie pour les habitants d'Aceh. Tarmizi Abdul Hamid a expliqué que les épices en tant qu'ingrédients médicinaux sont souvent répertoriés dans les livres des érudits d'Aceh, comme dans le livre Tajul Muluk Mujarrabah et de nombreux autres livres aux titres différents traitant des épices en tant qu'ingrédients. Selon lui, les manuscrits sur les épices mentionnent également des produits naturels comme la force des Acehni pendant le sultanat. Grâce aux épices, Aceh a pu construire une diplomatie avec les pays étrangers, notamment avec la Turquie dans le passé. Aceh a également pu créer un bookmaker de négociation avec les commerçants mondiaux d'épices sur l'île de Penang, en Malaisie, à l'époque de l'ancien sultanat. De plus, le manuscrit mentionne également que les épices sont un moyen d'échange pour la société. Autrefois, les gens échangeaient des épices contre du papier de qualité, des dirhams, des dinars et des assiettes en céramique. La grandeur de l'épice l'a fait connaître comme l'or noir par les habitants d'Aceh. Les épices qui font la force du sultanat d'Aceh sont le poivre noir et le poivre blanc, ensuite de la cannelle, de l'encens et du nid hirondelle. Parce que son principe pilier est le poivre, Aceh est surnommé la nation du ladam. La dernière nouvelle vient de la ville Makassar, Sulawesi du Sud. Le maire de Makassar, M. Muhammad Ramdan Pomanto, a officiellement publié mercredi une lettre d'appel pour faire don des actifs d'un certain nombre de partis à la Palestine. Cet appel est officiellement adressé aux chefs de district et chefs de village de la ville de Makassar. Il en va de même pour les directeurs des écoles maternelle, primaire et lycée de toute la ville, les chefs des entreprises gouvernementales régionales, les administrateurs de mosquées et leurs congrégations, et aussi les personnalités. Selon lui, la Palestine est actuellement frappée par un test du gouvernement sioniste israélien dans la bande palestinienne de Gaza qui a entraîné la mort de milliers de Palestiniens. Leur culte a été perturbé et les territoires palestiniens ont été de plus en plus réduits. Cet appel du gouvernement de la ville de Makassar a été lancé sur la base des droits de plus en plus perturbés à la vie et au culte ainsi que des droits de l'homme en Palestine. Ceci est considéré comme une violation grave et inhumaine des droits humains. Il est également demandé aux musulmans de continuer à prier pour le peuple palestinien afin qu'il ait la fermeté ou la force du cœur. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Chers amis de quatre coins du monde, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique L'Histoire d'aujourd'hui, le 11 novembre. Le 11 novembre 1918 est la fête de l'indépendance de la Pologne. Citant www.gov.pl, après avoir été libéré de la forteresse de Magdebourg, ce jour-là, la figure révolutionnaire polonaise Józef Piłsudski a pris le commandement militaire du conseil régional. Trois jours plus tard, Joseph Pilsudski devient la plus haute autorité chargée des affaires civiles et devient finalement le commandement en chef des forces armées polonaises. Ce jour-là, après 123 ans de domination coloniale, la Pologne est devenue un pays souverain et a été internationalement reconnue par d'autres pays. Le 11 novembre 2004, Yasser Arafat décédé. Yasser Arafat a passé les derniers mois de sa vie caché dans un complexe dévasté par les combats de la ville de Ramallah. L'Institut de radiophysique de l'hôpital universitaire de Lausanne a déclaré qu'Arafat était tombé gravement malade environ 4 heures après avoir mangé le 12 octobre 2004. Depuis alors, Yasser Arafat ne s'en est jamais remis. Le dirigeant palestinien est décédé à l'hôpital militaire Percy, près de Paris. Arafat est décédé à l'âge de 75 ans, le 11 novembre 2004, après être plein de maux de ventre et a été soigné le 12 octobre 2004. Il a été déclaré mort d'une maladie sanguine. Le 11 novembre 2011, l'ouverture des 26e SEA Games. L'Indonésie accueillera les 26e SEA Games. Le président Susilo Bambang Yudhoyono a ouvert la cérémonie d'ouverture sur le thème Sriwijaya, une péninsule dorée, au stade Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Dans son discours d'ouverture, le président Susilo Bambang Yudhoyono a exprimé l'espoir que via SEA Games 2011, l'ASEAN pourra atteindre des réalisations élevées qui feront non seulement la fierté de chaque pays membre de l'ASEAN, mais aussi de la région de l'Asie du Sud-Est et même le monde. Le président a déclaré que SEA Games faisait partie des mesures concrètes visant à renforcer la solidarité dans la région de l'Asie du Sud-Est. Environ 15 000 spectateurs ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Le 26e SEA Games se sont déroulés à Jakarta et Palembang du 11 au 22 novembre 2011. L'Indonésie est devenue championne générale des Jeux d'Asie du Sud-Est. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu, membayangkan dirimu, senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu,
dirimu, suara dan parasmu, senyuman manjamu.
Soy toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Et voici la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter le gouvernement indonésien encourage l'industrie de l'acier et du fer à appliquer des principes de durabilité. L'industrie métallurgique est l'un des secteurs qui soutient l'économie nationale indonésienne dans un contexte d'incertitude mondiale. Au troisième trimestre 2023, le secteur industriel des métaux de base, y compris la sidérurgie, a enregistré une croissance de 10,86%. Citant un communiqué de presse du ministère de coordination des affaires économiques, au cours des cinq dernières années, la consommation nationale de l'industrie sidérurgique jusqu'en 2022 a été en moyenne de 15,62 millions de tonnes par an et la production a une valeur moyenne de 12,46 millions de tonnes par an. En termes d'exportation, l'industrie sidérurgique continue également de connaître une tendance à la hausse, passant de 7,9 milliards de dollars en 2019 à 28,5 milliards de dollars en 2022. Le ministre coordinateur des affaires économiques, M. Erlangga Hartarto, qui a représenté le président Joko Widodo au Forum des affaires 2023 de l'Association indonésienne de l'industrie sidérurgique, jeudi 11 septembre, a révélé que l'Indonésie dispose d'un vaste marché intérieur, soutenu par la disponibilité des matières premières, de la main-d'œuvre, de la technologie, des marchés et de la capacité d'exporter, ce que d'autres pays ont rarement. Selon Erlangga, l'Indonésie est également le plus grand producteur de fer et d'acier de l'ASEAN. En outre, l'industrie sidérurgique mondiale est une industrie avec une capacité excédentaire importante, de sorte qu'elle peut avoir un impact sur les pays de destination des exportations. C'est pour cette raison que le gouvernement indonésien continue également de s'efforcer de maintenir les acquis de développement et le climat de l'industrie sidérurgique nationale afin qu'elle puisse rester compétitive. Le ministre coordinateur Erlangga a également expliqué que les investissements visant à remplacer les importations de produits sidérurgiques doivent continuer à être encouragés. Cet investissement applique des principes durables pour soutenir la réalisation de la décarbonisation. C'est parce que l'industrie du fer et d'acier a une consommation d'énergie élevée, produisant ainsi des émissions de carbone élevées. C'est pourquoi le gouvernement continue de soutenir les acteurs économiques de l'industrie sidérurgique qui appliquent des principes durables. Outre ce soutien, le gouvernement fait également des autres efforts pour encourager la croissance de l'industrie sidérurgique nationale, entre autres via le programme d'augmentation de l'utilisation des produits nationaux qui est mis en œuvre dans divers secteurs, ayant de l'automobile, de l'énergie, des infrastructures et des projets stratégiques nationaux, aux politiques obligatoires de normes nationales indonésiennes, aux politiques de substitution des importations de produits sidérurgiques, ainsi comme contrôle des importations basées sur l'évaluation des capacités des producteurs au niveau national en établissant un bilan des produits de base. Le gouvernement indonésien s'efforce également d'accroître la compétitivité de l'industrie sidérurgique nationale par la politique de certains pays du gaz naturel, afin qu'elle puisse être compétitive sur le marché mondial, en encourageant l'investissement en mettant en œuvre diverses incitations à investissement, telles que des exonérations fiscales et des réductions d'impôts, allocations, encourager l'utilisation des énergies renouvelables et en assurant le contrôle de marchandises en circulation afin qu'elles soient conformes aux spécifications et aux dispositions. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Shining down on me so bright, driving my ride through the city in the night. Everything is good and all right. We're gonna party till the morning light.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Pecel Semanggi de la ville Surabaya, Java Oriental. La ville de Surabaya, en plus d'être célébrée comme la ville des zéros, est aussi connue pour ses délices culinaires légendaires, à savoir le Pecel Semanggi. Il est l'une des collations traditionnelles de Surabaya qui existe encore à travers les époques. Pecel Semanggi vient en fait de la zone nord de la ville de Surabaya, à savoir le village de Benowo. Le semanggi est une plante sauvage que l'on trouve souvent dans les rizières et au bord de rivières. Mais il s'avère que les feuilles de semanggi, qui ressemblent à des feuilles de fougère, peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires, comme le pecel semanggi. Et au moment de la servir, les feuilles de semanggi sont d'abord bouillies et ensuite assaisonnées. Le saisonnement pour le pecel semanggi utilise un mélange arachide, de cassonade, d'oignon, de sel, de piment et de petis, ou parfois il est également mélangé avec la patate douce. Patate douce apportera une texture différente. Au moment de le servir, vous pouvez ajouter des germes de soja et du chou frisé. Pour le servir, utilisez des feuilles de bananier en forme de cône et appelées pincuk. Depuis le passé jusqu'à aujourd'hui, on toujours utilise des feuilles de bananier afin de ne pas altérer le goût frais. Et le pecel semanggi Surabaya est généralement consommé avec des kerupuk puli, à savoir des craquelins à base de riz comme coulière. Mais dernièrement, de nombreux amateurs de pecel semanggi utilisent également des cuillères en plastique ou des cuillères en feuilles de bananier pour le manger. À Surabaya, vous pouvez facilement trouver ce vendeur de pecel semanggi. Généralement, les vendeurs sont des femmes qui portent du tissu ou jarit et des foulards pour porter leur panier semanggi. Le prix d'une portion de pecel semanggi est de 1000 jusqu'à 10 000 rupiah avec des crackers puli. Chers amis, c'était un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Of Indonesia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Penglipuran a remporté le prix du meilleur village touristique 2023 de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Le village touristique de Penglipuran à Bali a été sélectionné pour figurer parmi les 54 meilleurs villages touristiques de l'OMT 2023. Ce prix a été remporté par le village touristique de Penglipuran lors de la 3e édition des meilleurs villages touristiques de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies qui s'est tenue à Samarkand en Ouzbékistan. Le village touristique de la région de Bangli à Bali a été sélectionné avec succès parmi 260 candidats de plus de 60 pays enregistrés. Outre le village de Penglipuran, trois autres villages touristiques en Indonésie sont inclus dans le programme de mise à niveau de cette initiative, à savoir le village de Bilebante à Nusa Tenggara Ouest, le village de Pela à Kalimantan Oriental et le village de Taro à Bali. Les trois villages touristiques font partie des 20 villages préparés pour devenir les meilleurs villages touristiques de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies dans la prochaine période. Les villages sont enregistrés dans le programme de mise à niveau des meilleurs villages touristiques de l'OMT. La nomination des villages touristiques est effectuée par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative à travers un processus de sélection strict parmi les lauréats du prix du village touristique indonésien et une assistance intensive pour assurer que le village touristique mérite d'obtenir le prix international. Les résultats sont ensuite recommandés à l'OMT. Le meilleur village touristique a été organisé pour sélectionner des villages modèles qui ont réussi à développer le tourisme en responsabilisant les communautés locales et en préservant les traditions et le patrimoine locaux. Le programme de mise à niveau est un programme fournissant un soutien de l'OMT et de ses partenaires aux villages touristiques qui répondent presque aux critères des meilleurs villages touristiques mais qui manque encore sur quelques aspects d'évaluation. Le succès du village Langgeran en 2021 et du village de Penglipuran en 2023 à recevoir le prix de meilleur village touristique est une reconnaissance internationale de la qualité des villages touristiques en Indonésie. Chers amis, c'est à la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Indonesia.
Jakarta toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, bonsoir. Voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Pantang Mundur, chantée par Diana, accompagnée de l'orchestre de Keroncong Kurmunadi. Cette chanson a été créée et popularisée par Titiek Puspa. Titiek Puspa est musicienne, chanteuse, auteure, compositrice, actrice et artiste populaire en Indonésie. Elle a écrit cette chanson en 1963 et l'a sortie un an plus tard. La chanson « Pantang Mundur » a été écrite par Titiek Puspa lorsqu'elle a vu comment le peuple indonésien luttait contre les colonialistes. Titiek Puspa, qui est impliquée dans le monde de la musique depuis l'époque du premier président Sukarno, comprend très bien ce que ressentaient les épouses des soldats à cette époque. « Pantang Mundur » est une chanson nationale, patriotique, qui reflète la fermeté et la sincérité d'une femme lorsqu'elle envoie son mari à la guerre. Bon, chers auditeurs, voici Diana avec l'orchestre de Kroncong Kurmunadi, dont le titre est « Pantang Mundur ». Bonne écoute!